Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible.
Dans tes rêves.
Dans tes rêves, tu papotes avec les idoles de tes posters d'ado. Allongé sur ton lit, au-dessus de ta tête, il y a Einstein qui tire la langue. Il y a les Rolling Stones qui tirent la langue. Un vrai concours d'insolence à la langue chargée. Et toi, tu te dis que plus tard, quand tu seras grand, toi aussi, tu tireras la langue à tous les experts de la langue de bois et à l'esprit de sérieux. Dans tes rêves, tu joues à saute-mouton sur les épaules de Darwin, mort de rire. Tu lui racontes le nouveau monde à l'obsolescence programmée qui ne se souvient même plus de sa théorie de l'évolution. Tu lui parles de la novlangue, des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Darwin descend de tes épaules et reprend une grosse part de gâteau à la chantilly. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible. Tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves,
France Inter,
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier médecin, immunologiste, chercheur, professeur en biologie, écrivain, conteur. Il est aussi et surtout, et bien sûr, la voix darwinesque et suave d'Inter tous les samedis 11h sur les épaules de Darwin. Bonjour, bonsoir Jean-Claude Amezen.
Bonsoir.
The Voice. Voix du soir aussi d'ailleurs. Vous faites souvent des rêves darwiniens, darwinesques? Je ne sais pas si ça existe.
Non, peut-être en fait. Peut-être parce qu'il faut... La question après, c'est de les interpréter. Et donc, peut-être sont-ils d'inspiration darwinienne ou peut-être ont-ils trait à... Ils ont sûrement trait en tout cas au vivant, aux métamorphoses. Mais je trouve que ce qu'il y a de beau dans les rêves, c'est justement leur ambiguïté, leur côté mystérieux. Le fait qu'ils ne se laissent pas facilement expliquer ou qu'ils ne se rattachent pas facilement à notre vie éveillée.
C'est pas forcément une science exacte et c'est ça qui est plutôt beau. Mon second est physicien, professeur de philo des sciences, poète des particules et des atomes. La conversation scientifique, c'est son émission sur France Culture, chez nos confrères, tous les samedis à 16h. Bonjour, bonsoir Étienne Klein.
Bonsoir.
Il vous plaît mon rêve avec tous vos héros de la vraie vie?
Oui, en plus il était joliment dit.
Merci. Ils tirent tous la langue, hein, c'est...
Oui, d'ailleurs, je me demande si la langue des Rolling Stones a été inspirée à celui qui l'a dessiné par la photo d'Einstein. Pour les 71 ans d'Einstein, il a été photographié dans sa voiture en quittant un restaurant. Il a tiré la langue et je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet entre les deux langues tirées.
Et qui était la plus chargée des deux?
Celle des Stones.
C'est pas pris les mêmes stupéfiants. Alors, vous connaissez dans la vraie vie tous les deux des conteurs des sciences qui laissent part à l'imaginaire et on va en parler ce soir. Alors, vous connaissez un petit peu quand même. D'après vous, qui est le plus sérieux des deux?
C'est lui.
Je pense que c'est lui.
Donc on est d'accord.
Qui est le plus sportif?
Bah, c'est Étienne.
C'est pas lui.
L'alpiniste.
Le coureur.
Mais coureur, attention.
Autour du Mont Blanc.
Le plus hypochondriaque?
Ça, je sais pas.
Médecin?
Je sais pas non plus. Non, je crois pas.
Les docteurs?
C'est difficile, faudrait qu'on discute.
Moi, je crois que je le suis pas du tout.
Je suis pas beaucoup, donc.
Le plus flippé par le temps qui passe?
Ça dépend des moments.
Et en ce moment?
En ce moment, un peu, oui.
Vous?
Oui. En ce moment, je ne sais pas pour Étienne, mais en
moi,
ce moment...
Temps. Ça a été jamais, sauf récemment, depuis peu.
Oh là là. Et pour t'amener, le plus idéaliste, rêveur?
C'est lui.
J'aime beaucoup. C'est vous, Jean-Claude Amezen?
Peut-être.
Ah, en tout cas, le plus toqué des anagrammes, c'est vous, Étienne Klein.
Ah oui.
Vous avez celui de Jean-Claude Amezen. Il faut nous en parler, là, quand même.
Bah, Jean-Claude Amezen, on en a déjà parlé, d'ailleurs, il s'en souvient jamais, parce que Amezen a pour anagramme amnésie, donc ça s'explique. Mais si on prend Jean-Claude Amezen, le prénom et le nom, ça donne quelque chose d'assez intéressant, puisqu'il est venu en jean. Là. C'est un jean assez propre. Et pourtant, Jean-Claude Amazon, ça donne le médecin au jean sale.
ce qui est assez...
Vrai ?
Ce qui est assez vrai, enfin, sale, je ne sais pas, mais en tout cas, au jean, je dirais...
On les a remarqués depuis qu'il la connaît, qui porte tous les jours des jeans.
Mais propres ou peut-être anciens. En fait, moi, ce que je remarque chez vous, c'est qu'il y a la même frisette comme ça dans l'œil. La frisette, c'est la marque de quoi? Est-ce que c'est la marque de l'émerveillement, de l'imaginaire? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est une question de nature? Comment vous l'interprétez, vous, la frisette que vous pouvez voir chez l'autre, au regard pas éteint?
Je crois.
Il y a un silence éloquent.
Oui.
Bah, on peut parler de la frisette de l'autre, peut-être.
Ben, voilà, si c'est plus facile, allez-y alors.
Ben, chez Jean-Claude, il y a une espèce d'attention permanente à ce qui est, d'où des questions posées par le réel, en permanence.
Oui, je crois que c'est encore une fois, c'est difficile de savoir, mais je crois que ça traduit une espèce, tu as raison sur l'attention, mais d'émerveillement un peu.
C'est ça. Hein,
et je pense qu'il y a la même chose chez Étienne, même s'il le déguise souvent derrière une certaine distance. Et donc, il y a aussi l'amusement chez Étienne de cette distance, à la fois de l'intérêt et puis d'attirance. Mais je pense que c'est vraiment l'étonnement au sens de l'émerveillement, c'est-à-dire le contraire de l'habituation.
Pour moi, c'est la combinaison de deux choses. Il y a d'abord, c'est quand même incroyable d'exister, non ?
Oui.
Ça, c'est la première chose. Et quand on s'en rend compte, ça produit une sorte de choc permanent. Et puis, il y a une phrase de Claudel qui me plaît beaucoup. Claudel disait « Les choses qui existent sont importantes ». C'est une sorte de banalité. Et en même temps, c'est très profond de se rendre compte qu'il existe des choses. Et en plus, qu'on peut en partie les connaître.
Oui, et d'exister et que le monde existe, hein, ce que tu dis. Il y a une phrase de Philippe Roth, que nous soyons et que cela soit inexplicable et évidence. Et je crois que dans ces deux, dans le lien entre les deux, il y a cet étonnement, cet émerveillement, cette curiosité.
Et cet émerveillement, c'est pas anodin, Jean-Claude Amezen, vous le dites souvent, hein, vous êtes d'ailleurs tous les deux des conteurs aussi. Vos émissions, entre autres, sont des contes scientifiques et vous aimez, vous tenez à commencer par les fameux « Il était une fois » pour garder ce pouvoir d'émerveillement et d'histoire qui ne sont pas forcément réservés qu'aux plus jeunes.
Oui, il y a plusieurs dimensions. La première, c'est l'enfance, je pense. Pour moi, une histoire, c'est l'enfance. Pour moi, une histoire, c'est mon père qui nous raconte des histoires le soir pour nous endormir. Et il y a cette magie, il y a quelque chose qui va surgir. Alors, ça surgit du passé, hein, puisque ce qu'on dit, c'est toujours du passé. C'est quelque chose qui a eu lieu. Et il y a une deuxième dimension qui est que, depuis Darwin, la science elle-même a pris une dimension historique et est devenue un récit. Puisque les métamorphoses, l'évolution, la contingence font que c'est pas simplement les lois de la nature dans une espèce de présent éternel comme ça l'était avant, c'est une histoire. Et donc le récit a quelque chose à voir, non seulement depuis des temps immémoriaux avec nos représentations du monde, mais avec la science dans ce qu'elle a de plus actuel.
Étienne Klein se reconnaît forcément aussi dans cette dimension de conteur, de récit, de l'infiniment petit.
Enfin, il y a une différence, c'est que dans les émissions de Jean-Claude, il n'y a pas d'invité. Dans la mienne, il y a un invité, deux invités. Donc, c'est plutôt une conversation qu'un récit, même s'il y a des composantes narratives, évidemment. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que l'évolution du vivant a été décrite avant qu'on comprenne que l'univers lui-même avait une histoire. Ça, c'est les travaux du XXe siècle en cosmologie. On avait compris que les choses qui sont dans l'univers ont une histoire. Mais que l'univers lui-même, en tant qu'objet, a une histoire, ça c'est une découverte très récente.
Et je reste persuadé, bien que, on avait déjà discuté avec Étienne, bien que j'ai jamais trouvé d'élément précis, que la diffusion du darwinisme, de la révolution darwinienne, a été tellement grande dans la culture, qu'elle a d'une certaine façon eu une influence sur la pensée des physiciens. Puisque c'est vraiment quelque chose qui a changé la façon de voir l'origine des langues, la façon de voir la notion d'évolution s'est propagée partout. Et 50 ans plus tard, une cinquantaine d'années plus tard, elle est rentrée en astrophysique.
Oui, c'est ça. Des histoires qui commencent par « Il était une fois, il va y en avoir ». Qui est le plus bavard des deux? Je ne sais pas. Hein, c'est moi, c'est toi, c'est lui.
Je pense qu'on est à peu près du même niveau.
On est à égalité. Étienne Klein et Jean-Claude Amezen, voilà pour la partition lyrique. Jusqu'à minuit, on est ravis d'être avec vous. Bien sûr, vous postez vos songes sur notre page Facebook et à nous dans tes rêves, la rêve partie anti-blues du dimanche soir, mitonnée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquier, la réalisation. Nadia Chougui, à la préparation. Muriel Perez pour la programmation. Et ce soir, à la technique, c'est Maxime Ingrand. Belle soirée. C'est Georgia Smith sur France Inter et ce soir nous explorons les rêves, le cinéma intérieur de nos deux invités, le médecin conteur Jean-Claude Amezen et le physicien conteur Étienne Klein.
France Inter.
L'entraînement n'est rien. Seul compte la volonté.
Si tu parviens à dépasser ta condition d'homme, si tu te consacres à un idéal, tu deviendras tout autre.
Dans tes rêves. Laurence Garcia.
Es-tu prêt à te lancer ?
Et comme à chaque fois, nous revisitons l'imaginaire de l'enfance qui explique qui l'on devient. Vous en avez un petit peu parlé d'ailleurs, Jean-Claude Amezen. J'ai remarqué, vous êtes tous les deux fils d'ingénieurs. Étienne Klein, non ?
Oui. Oui ?
Ah bon, bon.
Bon, je ne savais pas, je ne connais pas.
Moi non plus.
Je commence par vous, Jean-Claude Amezen. Vous l'avez souvent raconté, une enfance que vous dites avoir dans un monde de survivants, les survivants étant vos parents, juifs, polonais, déportés. Face à cette histoire-là, on parlait de contes tout à l'heure, il y a de la place pour le môme, pour rêver, pour de la légèreté, pour de l'innocence, pour...
Il y a énormément de place pour l'innocence, pour le rêve, pour le questionnement. Pour c'est cette espèce d'écart entre le rêve ou ce qu'on souhaite ou ce qu'on imagine ou ce devant quoi on s'émerveille et puis le côté tragique de la réalité. Je crois que le rêve se construit ou le conte se construit en essayant de tisser les deux ensemble.
Mais tout jeune, ça veut dire que vous aviez déjà conscience, vous, de cette part invisible, de la tragédie aussi, ou vous mettiez ça de côté, ou en disant c'est pas mon histoire non plus.
C'est toujours très difficile de reconstruire a posteriori ce qu'on ressentait, hein, puisqu'il y a tout ce qu'on a vécu depuis qui vient recolorer le passé. Mais à mon sens, c'était plutôt une question de familiarité, c'est-à-dire c'était proche, hein, puisque c'était. C'était ma mère, c'était ma famille. Donc c'était à la fois quelque chose de tragique, de terrible. C'était quelque chose de très proche. C'était pas une histoire abstraite. Ça s'inscrivait dans le monde merveilleux qui était le monde quotidien. Et puis il y avait une dimension d'espoir parce que le fait de vivre parmi des survivants veut dire que malgré la tragédie, malgré l'absence, au-delà de l'absence, eh bien, il y a l'espoir et la présence quotidienne de la renaissance.
La génération suivante.
Et puis, je veux dire, les survivants sont ceux qui ont reconstruit, qui ont recommencé, et donc il y a les deux. Il y a ce qui a disparu, il y a l'absence, il y a cette notion d'extraordinaire fragilité. C'est-à-dire qu'au fond, tout est potentiellement éphémère, tout peut disparaître. Et d'un autre côté, nous étions la preuve. Que dans le désastre le plus complet, eh bien, il y a la possibilité de recommencer, de réémerger.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Claude Amezen, votre papa était un conteur comme vous, mais ne vous parlez pas des histoires vraies du passé. Il en inventait plutôt, il en fabriquait. Ça aussi, c'est pas anodin.
Alors, c'est toutes les histoires qu'on raconte aux enfants. Et comme il était féru de mythologie, il adorait la littérature, ses histoires étaient tissées. De mythes, de l'Antiquité, de romans que j'ai trouvé petit à petit. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire quand, au fur et à mesure de mes lectures, je trouvais des passages, des bribes de ce que j'avais entendu dans des contes. Et donc il y avait cette façon de tisser des histoires qui a priori n'avaient pas de rapport entre elles et d'en faire une histoire qui continuait, qui recommençait chaque nuit, chaque soir.
Un papa qui aimait la musique, une maman artiste peintre.
Ouais.
Quelque part, cet éclectisme culturel que vous avez l'un et l'autre, hein, ce rapport à la science ouvert sur les autres disciplines, ça vient certainement d'eux. Ça veut dire aussi que quoi ? Par les arts, par la culture, on se guérit
ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire, je pense que ça doit être la même chose pour Étienne, que la réalité est d'une très grande richesse et qu'on appréhende le monde et les autres à l'aide de différentes approches, et qu'il y a la science, il y a les arts, il y a la philosophie, il y a la spiritualité, et que tout ça, si c'est tissé ensemble, permet d'avoir une relation plus riche, plus ouverte avec les autres et avec le monde.
Alors on l'oublie, Jean-Claude Amezen, mais vous êtes américain aussi, il y a un américain en vous, puisque vous êtes né à New York. Alors, je ne sais pas si ces paroles-là vont être causées à l'imaginaire du petit américain que vous étiez.
Regarde.
Bonne année pour le maïs.
Les Mohawks vont pousser du maïs
encore,
sur 5 miles le long du fleuve. C'est au chef Joseph Brandt le champ.
Vous rapportez des fourrures ?
Oui, beaucoup.
Beaucoup de fourrures.
Il y a presque plus de gibier dans la région.
Et où troquez-vous les pots, à Castleton?
Jouer leur ville. Jouer leur ville avec les Hollandais contre de l'argent. Les Français et les Anglais ne payent qu'en coquillage ou en eau de vie.
Et toi, Jack, qu'est-ce qui t'amène par ici?
L'armée franco-indienne marche vers le sud depuis Fort Carillon pour attaquer l'armée anglaise. Et moi, je suis venu lever une milice pour défendre la couronne.
Ça fait marrer Étienne Klein, vous avez reconnu ce film ou pas?
Non.
Non, mais c'est normal.
Le dernier de
voilà, bon, innombrables versions. Ouais, vous, gamin, c'était...
Un livre que j'ai...
C'est... Voilà.
Ah, mais j'ai lu voilà,
c'est
le film.
C'est le deuxième livre que j'ai lu, je crois. D'ailleurs, c'est rétrospectivement, je me dis que les premiers livres que j'ai lus étaient assez tragiques.
Oui.
Parce que le premier, je devais avoir à peu près 5 ans, c'était La Case de l'Oncle Tom. Et puis, Le Dernier des Mohicans.
C'est... oui, mais derrière la tragédie, il y a toujours l'espoir.
Bien sûr, c'est... bien sûr. Et puis il y a la beauté des textes, il y a la beauté, moi, ce qui revient un peu à ce qu'on disait dans Le Dernier Mohican. Il y avait la... Fenimore Cooper est un décrit merveilleusement la nature, et la nature encore sauvage à l'époque. Donc il y a la splendeur de la nature, et puis il y a la tragédie d'un peuple qui disparaît.
Notre page encore, qui se tourne. À chacun la bande imaginaire de son enfance ou de son adolescence. Étienne Klein, c'est peut-être pas Le Dernier des Mohicans, ce qui vous concerne, mais peut-être cette voix-là.
Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir.
Tu es complètement dingue, allez, monte.
Non, la police m'en fout sur ma tête. Ce qui m'ennuie en ce moment, c'est que je devrais pas penser à elle, et j'y arrive pas.
Tu veux vendre automatique?
Non.
Je te dis de pas faire le con.
Fous le camp!
Et pam, dans le dos. Vous l'avez reconnu, hein, cet
Belmondo,
extrait?
Oui.
Belmondo, à bout de souffle.
À bout de souffle.
Il paraît que vous connaissez la réplique de la fin par cœur, non?
Oh, je m'en souviens plus. C'est amnésie.
Il dit, c'est amnésie. Il dit, c'est vraiment dégueulasse.
Ah oui, c'est ça. Mais je me souviens de l'anagramme de Jean-Paul Belmondo, par contre.
L'anagramme de Jean-Paul Belmondo.
Ouais, ça donne jambe d'Apollon.
Jambe d'Apollon.
Oui, jambe d'Apollon.
Ce type est fou. Albert Einstein, Babel, les Stones, vous en parlez souvent de tous ces personnages-là. Je vois pas forcément les atomes crochus, les liens. C'est quoi le côté un peu libre artiste, libre penseur?
Bah, disons qu'au collège, déjà, j'étais fasciné par la tête d'Albert Einstein. J'avais deux photos de lui, une où il est tout jeune, il a 26 ans, au bureau des brevets. En 1905, à Berne.
On imagine mal
et
jeune.
Et puis une autre, après la guerre, il est à Princeton, il y a eu la bombe atomique. Il a un regard beaucoup plus triste. Et ce qui me fascinait, c'était l'écart entre le regard pétillant de 1905 et le regard plus sombre d'après la guerre. Et je savais pas, je connaissais pas les travaux d'Einstein. Mmh. Il y avait la formule E égale MC2 sur l'affiche, mais je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Et c'était un personnage inspirant. Et continue à m'inspirer au sens où je trouve dommage qu'il soit pas là. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'Einstein revienne.
Oula, mais il serait peut-être...
Et commente l'actualité, ouais. Y compris non scientifique.
Il serait étonné, non?
Il serait étonné, ouais. Je pense qu'il serait complètement perdu.
Ouais.
Notamment s'il apprenait qu'on a détecté les ondes gravitationnelles, qu'il a prédites lui-même en 1916, tout en disant qu'on ne pourrait jamais les détecter. Par ailleurs, il ne croyait pas aux trous noirs. Or, les ondes qu'on a détectées ont été émises par la fusion de deux trous noirs.
Oui, c'est ça.
Donc, il faudra lui expliquer qu'on a détecté des choses dont il pensait qu'on ne pourrait pas les détecter. Et qu'en les détectant, on a prouvé l'existence des trous noirs auxquels il ne croyait pas. Je pense qu'il aurait du mal à s'en mettre.
Oui, mais peut-être qu'il dirait des choses qui seraient intéressantes.
Absolument,
et qui me
absolument.
Surprendraient.
Allez, on le laisse tranquille, le pauvre, qu'il reste là-bas. Étienne Klein, vous venez d'une famille nombreuse.
Oui, mais j'étais le deuxième. Donc, ouais, au début, je ne le savais pas.
Ah bah, vu comme ça, ça c'est...
C'est à la fin que j'ai compté.
Sept.
Sept.
Faut trouver sa place dans une famille aussi nombreuse.
Ouais, mais ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde, je crois. Notre père ne nous racontait pas d'histoire le soir, quoique, plutôt le catéchisme. Et puis à table, il nous racontait des... Enfin, il nous lançait des devinettes ou des...
Enfin, voilà, les jeux de mots.
Des charades.
Les jeux de mots, ça vient de...
Des charades, beaucoup. Et puis les petits problèmes de mathématiques aussi.
Mots,
c'est-à-dire que j'avais un rapport ludique à la science, grâce à lui.
Ouais, parce que c'est ce rapport ludique à la science, vous ne l'avez pas retrouvé, vous, dans vos études, hein?
Moi, si, un peu, mais de façon très indirecte. Par exemple, je me souviens que la première fois que j'ai vu qu'un calcul qu'on fait au tableau, c'est un calcul très simple, c'est un calcul de circuit électrique, au cours d'une séance de travaux pratiques en seconde ou en première, je ne sais plus. On fait un calcul, on fait une application numérique, et ensuite on fait une mesure.
Ouais.
sur le circuit qu'on a construit. Et la mesure donne le même résultat que le calcul.
J'ai rien compris.
Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'une équation puisse dire quelque chose qui est dans le monde? L'équation, on l'écrit dans un tableau, dans une sorte d'espace abstrait, et la mesure vient confirmer le calcul. Comment ça fonctionne? Et ça, c'était le début d'un questionnement qui n'est toujours pas achevé. Comment ça se fait que les équations des physiciens marchent aussi bien? Non seulement pour décrire le réel tel qu'il est, pour décrire les phénomènes d'une façon synthétique, mais aussi pour permettre de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Le boson de Higgs, dont on a beaucoup parlé, les ondes gravitationnelles, ont été prédites telles qu'elles sont bien avant d'avoir été détectées.
Ouais.
D'où ça vient ça? D'où vient cette efficacité des mathématiques? Est-ce qu'elles sont dans le monde? Auquel cas, pour comprendre le monde, faut comprendre les mathématiques? Ou bien est-ce qu'elles sont un produit du cerveau, qui est une sorte de langage qu'on impose à la nature pour qu'elle réponde à nos questions?
Il doit s'en poser des questions, Étienne Klein, n'est-ce pas?
Hein? Pas plus que Jean-Claude Amaïs de la Marelle. Voilà.
Claire, mais où va-t-on comme ça? Où va-t-on à 7 heures? Tout au bout de la nuit, sans essence au moteur. Et si je sens la pisse, m'aimeras-tu encore? Que tout s'ensevelisse, on ne pourrait pas plus fort. Claire, tu parlais de l'Isère, comme c'est triste l'Isère. Puis tout au bout du compte, tant de choses à défaire. Tant de gens éduqués, éduqués à la peur. Que l'on jette les bouées avec l'argent du beurre. Mais où va-t-on comme ça? Mais où va-t-on comme ça?
Jean-Claude Amezen qui papote. C'est chevaleresque sur France Inter, dans les rêves de Jean-Claude Amezen, donc, et d'Étienne Klein.
Dans tes rêves.
Tu es une machine.
Je suis un garçon.
Impossible. Plus intelligent, plus sensible et plus humain que nous-mêmes.
As-tu peur de voir les étoiles? Je peux te montrer comment les atteindre.
On parle de l'imaginaire, des origines ce soir et du futur également. Vous, les amoureux des mots, Étienne Klein et Jean-Claude Amezen, entre progrès, prospective, innovation, quel est le mot qui vous cause le plus à l'oreille?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rhétoriques associées au mot progrès, au mot innovation. Avec un camarade qui s'appelle Gérald Bronner, qui est sociologue, on a constaté grâce à un logiciel que le mot progrès a disparu des discours publics. C'est un mot qu'on écrivait avec une majuscule autrefois, qui est un mot qui a été structurant de la modernité. Et il s'est effacé des discours publics progressivement à partir de la fin des années 80 du siècle dernier. Aujourd'hui, il a complètement disparu.
On dit innovation plutôt?
Il a été remplacé par innovation. On pourrait dire que c'est simplement un changement de mot. Innovation, c'est presque synonyme de progrès, donc il s'est en fait rien passé. Mais si on écoute les rhétoriques,
c'est-à-dire
pour le dire simplement, l'idée de progrès s'appuie sur un temps, sur l'idée d'un temps constructeur. Le temps est complice de notre liberté. On configure le futur d'une façon crédible, parce que c'est pas l'utopie, et attractive. Et on travaille, on se sacrifie même à faire advenir ce futur qu'on a désiré pour les générations futures. Et donc, on part d'une certaine idée du futur pour motiver nos actions. Ouais. Alors que la rhétorique de l'innovation est une rhétorique qui s'appuie sur l'état critique du présent. Il y a des défis à relever, et sans l'innovation, on ne peut pas les relever. Et donc, on s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur, d'un temps qui abîme les choses. Et avec un collègue du CEA qui s'appelle Vincent Bontemps, on a fait des recherches et on a regardé l'histoire du mot innovation, qui est un mot qu'on n'utilisait pas du tout quand j'étais étudiant. Mes professeurs ne l'employaient jamais, ils parlaient de découverte, d'invention, d'application, mais pas d'innovation.
C'est plus romantique.
En fait, c'est un très vieux mot qui est apparu, c'est une longue histoire, hein.
Ouais.
Mais c'est un très vieux mot qui est apparu au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique. En bas latin, innovatio, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut modifier dans un contrat pour que le contrat demeure valide.
D'accord. Wow.
Donc, il faut innover pour que rien ne change. Mmh. Ensuite, chez Machiavel, en politique, le prince ne doit pas innover sauf quand son pouvoir est menacé. Donc, là encore, l'innovation sert à maintenir les choses. Et puis, Francis Bacon, au XVIIe siècle, écrit un livre, Essais et conseils civils et moraux, en 1625, dans lequel il y a un chapitre intitulé « L'innovation ». Il parle de l'innovation technique.
Oui, c'est ça.
Et lui dit « Le temps abîme les choses, le temps abîme les situations. La seule façon d'empêcher que le monde se défasse, c'est d'innover.
Ouais. »
Or, Bacon, c'est pas un philosophe des Lumières. Donc, je ne suis pas sûr que notre rhétorique de l'innovation rende justice à l'idée de progrès. Et si on croit à l'idée de progrès, alors on doit soumettre cette idée à elle-même, c'est-à-dire la faire progresser, plutôt que de l'abandonner.
L'idée de progrès avec un grand P, j'imagine que ça vous inspire forcément, Jean-Claude Amezen.
Oui, pour moi, la notion de progrès, qui est différente de celle d'invention, de découverte ou d'avancée, c'est qu'elle donne l'idée que la nouveauté qui est apparue a un bénéfice humain, qu'elle est souhaitable d'un point de vue humain. Pour moi, il n'y a pas de progrès scientifique qui ne soit lié à un progrès en termes d'humanité. Et donc, je crois que parler d'innovation, c'est mettre l'accent sur le fait que ce qu'il y a aujourd'hui ou ce qu'il y aura demain n'existait pas avant, ce qui est intéressant, on fait du nouveau. Parler de progrès, ça veut dire parler de notre situation individuelle et collective. Pour moi, le vrai progrès, c'est la reconnaissance progressive, extrêmement fragile, mais continue, du droit de chacun, du respect apporté à chacun, quel que soit l'état de nos connaissances scientifiques ou de nos applications technologiques. Et là, il y a une ligne. Si on part d'Athènes, qui se veut la première démocratie occidentale, tout le monde est libre et égal, sauf les femmes, les esclaves et les étrangers.
Oui, ça en fait déjà beaucoup, quand même.
Quand la première déclaration qui se veut universelle de droit et de liberté, qui est la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, proclame la liberté et l'égalité de chacun, mais maintient l'esclavage, ne donne pas le droit de vote aux femmes et ne reconnaît pas les habitants du pays, qui sont les Amérindiens.
Ouais.
La même chose en 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pas de la femme, et l'esclavage est maintenu. 1848 pour abolir l'esclavage dans notre pays. Le milieu du XXe siècle pour donner le droit de vote et de participer à la vie politique à la moitié de la population, les femmes. Donc je trouve que là, il y a quelque chose qui est fragile, qui est menacé, qui n'est pas répandu partout dans le monde, mais qui est un véritable progrès. Et une des questions, c'est comment on tisse l'innovation scientifique, l'innovation technique, avec ce type d'avancée. La reconnaissance des droits fondamentaux de chacun. L'innovation, ça peut être un outil, mais l'innovation, ça peut être quelque chose qui, au contraire, détisse ce respect humain.
Et on ne regarde plus, on ne pense plus le futur qui est laissé en lévitation intellectuelle, donc colonisé par les peurs, les fantasmes, au lieu d'être configuré à l'avance d'une façon qui nous invite à nous mobiliser pour le faire advenir.
Ouais. Tout à l'heure, Étienne Klein, vous imaginiez Albert Einstein revenir ici, là, dans le Nouveau Monde, et vous-même, Darwin, Jean-Claude Amezen, en se disant qu'est-ce qu'il penserait de tout ça. Les futurs Einstein ou darwinesques, tout est possible dans cette émission, sera quoi? Peut-être des robots connectés,
La façon de faire de la recherche a tellement changé que je ne suis pas sûr qu'Einstein serait adapté au système actuel.
Obsolète.
Je dis pas que non, mais les questions. Enfin, un génie, c'est pas quelqu'un qui a la propriété intellectuelle seulement d'être un génie. C'est la rencontre entre une certaine forme d'esprit et des problèmes d'une époque. Et Einstein, il est arrivé à la fin du XIXe siècle avec une façon de poser des questions qui a ouvert des brèches et répondu à certaines questions. À la fin de sa vie, il y a un de ses biographes qui est venu le voir à Princeton et qui lui a demandé, à votre avis, Einstein, d'où vient que vous avez été le premier à découvrir la théorie de la relativité? Et Einstein a répondu d'une façon que je crois sincère, il a dit, c'est grâce à mon retard mental.
Ah bon?
Oui, parce qu'il dit, les questions d'espace et de temps, c'est des questions qu'on se pose dans l'enfance.
Oui.
On comprend que l'espace, c'est le territoire de notre liberté, on peut aller et venir, on comprend qu'on mesure les longueurs avec un mètre ou un double décimètre, et on comprend que le temps, c'est la marque de notre emprisonnement, on n'est pas libre de se propager dans le temps comme on veut, et on mesure les durées avec des montres ou des horloges. Et une fois qu'on a compris cette différence, l'affaire est réglée, et on vit avec cette idée-là jusqu'à la fin de ses jours. Mais moi, Einstein, à cause de mon retard mental, je me suis posé des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte.
C'est comme quoi il faut cultiver encore l'esprit d'enfance.
C'est intéressant, ça, ouais, parce que c'est toute l'évolution des primates et l'évolution humaine se caractérise d'un point de vue biologique et évolutionniste parce qu'on appelle la néothénie.
C'est-à-dire
en fait que le cerveau continue à se développer pendant l'enfance et que donc le petit ne naît pas avec un cerveau d'adulte. Et donc la capacité à emmagasiner la culture, la capacité à apprendre à parler, la capacité à apprendre à jouer, c'est ce retard. Et donc c'est intéressant parce que c'est une espèce de cas de néothénie extrême, c'est-à-dire garder en soi ce qu'il y a de part d'enfance avant d'avoir cru tout comprendre et s'être parfaitement adapté à son environnement. C'est à la fois ce retard et cette part de jeu. Et je pense que c'est intrinsèque à la création scientifique. Mmh. Ça consiste au fond à ne pas prendre les réponses qui existent à une époque donnée. Il y a toujours des réponses à toutes les questions. À voir les choses autrement. Et donc, Einstein parlait de retard, on pourrait dire un pas de côté, on pourrait dire une discordance. C'est-à-dire, au fond, à ne pas voir les réponses qui existent comme des véritables réponses à la question, et avoir d'un seul coup des questions qui n'auraient pas de réponse. Et ça, je crois, dans des tas de domaines, ça se produit en permanence.
Einstein a inventé une façon de poser des questions qui permet de faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre.
Et avec
on fait un pas de côté, on s'écarte de l'observation, on interroge les lois supposées vraies, on regarde ce qu'elles ont comme implication dans des situations qu'on peut imaginer, mais qu'on ne peut pas réaliser concrètement. Par exemple, qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Qu'est-ce que je ressentirais si j'étais en chute libre? Qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière? Quelle serait la vitesse de la lumière émise? C'est des questions. Si votre enfant vient le soir tard, vous posez la question, vous dites, va jouer. Il a jamais lâché le fil de ce questionnement.
Et c'est drôle. C'est ce que Darwin faisait, c'est-à-dire essayer de se promener sur des millions d'années. Qu'est-ce qui se passe si on pouvait voir ce qui est en train de se dérouler, non pas sur une vie, non pas sur deux siècles, mais sur des millions d'années. Ouais. Et donc ça consiste toujours au fond à s'écarter,
à sortir,
ouais, et à s'étonner, hein, c'est-à-dire à trouver que certaines questions valent la peine d'être gardées comme des questions, alors qu'il y a une grande tentation d'avoir des réponses parce que les
toutes
réponses
faites,
c'est
voilà.
Bah, les
et
réponses,
ça rassure,
c'est,
voilà, et, bah voilà, oui.
Et l'émerveillement, c'est de considérer qu'il y a Il y a encore plus de questions qu'il n'y a de réponses, y compris les questions dont on n'a pas idée qu'elles se posent.
On va s'en poser d'autres questions. On t'écoute un petit Rolling Stone ?
Allez,
je vous laisse découvrir.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sing.
those tears go by.
Tears Go By, ça vous plaît les Stones, Etienne Klein, celle-ci?
Oui. Hein, je trouve ça intéressant.
Ouais, je trouve ça intéressant, il va s'en poser des questions. C'est beau. Allez.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander, je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai?
Laurence Garcia.
Et bien accompagné ce soir avec Jean-Claude Amezen et Etienne Klein. Messieurs, il est bientôt minuit. C'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Vous êtes déjà venus dans cette émission, donc peut-être que vous en souvenez. Et comme à chaque fois, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez hop, on se met dans son noir intérieur. Vous me répondez les yeux fermés. Jean-Claude Amezen, si vous pouviez justement croiser cet ancien vous, ce gamin qui... se poser déjà des tas de questions dans ce monde de survivants. Avec du recul, qu'est-ce que vous lui dites à ce môme ?
De continuer. Et de continuer à m'habiter le plus longtemps possible.
J'ai l'impression qu'il est bien là, non encore ?
Je crois.
Etienne Klein, vous pouvez croiser ce gamin dans la famille.
En fait, ma mère m'appelait le ravi.
Pas de la crèche.
Voilà, non, le ravi tout court. Et la question, c'est... est-ce que j'ai ou non trahi cette impression d'enfance ?
Aujourd'hui ?
Oui. J'espère que non.
Autrement dit, est-ce qu'on est devenu l'homme qu'on aurait aimé être plus jeune ? Redit autrement ?
Peut-être. Mais il me semble que la part d'enfance, elle est impossible à défaire, non ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le docteur ?
Je crois que ce qui est intéressant, c'est pas de retourner... enfin... autrement qu'en souvenir ou en rêve, à la part d'enfance, c'est de la laisser nous construire. Et donc la question n'est pas tant, je crois, est-ce qu'on est devenu ce qu'on rêvait quand on était enfant.
Fermez les yeux.
Ouais, fermez les yeux, bah vous aussi.
Est-ce qu'on... si tu as vu que j'ai ouvert les yeux, c'est si tu as ouvert les yeux. c'est pas tant est-ce qu'on est devenu ce qu'on pensait, les multiples avenirs qu'on imaginait. C'est est-ce que cette capacité à imaginer, à rêver, à inventer, à s'émerveiller est toujours présente ?
Oui.
Et est-ce qu'elle peut continuer à nous projeter dans l'avenir ?
Une petite dernière question double en fermant les yeux, c'est dur, hein ? Imaginez Darwin et Einstein dans un bateau qui tombe à l'eau. Ou qu'est-ce qu'ils font ?
À quel âge ? À la fin ?
Comme vous voulez.
Au début.
Pourquoi au début ? S'apprécieraient,
je pense qu'ils seraient solidaires puisqu'ils ont posé l'un et l'autre des questions qui les dépassaient. Et ça devait les rapprocher, je pense.
Ouais, je pense qu'il y avait un point commun. Ce qui est intéressant, c'est que Darwin, toute sa vie, à côté de la révolution scientifique qu'il a produite, était profondément préoccupé par l'esclavage, par les ravages de la colonisation, par le racisme. Et donc il y avait l'élaboration d'une vision morale du monde. Et je crois que ça le rapprochait beaucoup d'Einstein, qui là aussi avait cette double préoccupation. Sont deux personnes qui... Et peut-être que c'est sur cette cette partie, alors le temps les aurait sans doute beaucoup intéressés s'ils avaient pu échanger la notion du temps, mais c'est peut-être sur cette partie progrès dont on parlait tout à l'heure, sur cette partie qui concerne profondément l'humanité, la paix, le respect, qu'ils auraient été les plus, le plus proches.
Donc ils seraient pas mis à la flotte, quoi. Personne n'aurait poussé l'autre dans le bateau.
Oh, ça c'est sûr.
C'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux, vous avez un petit peu déjà ouvert. Savoir, penser, rêver, les leçons de vie de 12 grands scientifiques chez Flammarion avec vous-même. Savoir, penser, rêver, c'est la bonne trilogie. On n'oppose pas ni le rêve au savoir, ni à la pensée.
Non, c'est Victor Hugo qui disait ça, hein, qui disait savoir, penser, rêver, tout est là. Et je pense que c'est au contraire, c'est pouvoir conjuguer, tresser ensemble, tisser ensemble, différentes façons d'être.
Tissons les bien. Rêver, c'est un palindrome.
C'est vrai. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir... Vous êtes raconté à travers l'eau, d'avoir voyagé et rêvé ensemble. Belle nuit, à bientôt. À dimanche prochain, ce sera une rediffusion de la Rêve Partie avec l'écrivain Atik Raimi et du philosophe Frédéric Schifter. Et bien sûr, oser rêver. L'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.